Salem, c'est là que tout avait commencé.
The Christians of Jerusalem, that's where it all began.
Ils avaient été fidèles pour propager la parole de l'Évangile.
Have been very faithful at spreading the good news of the gospel.
Pour des raisons diverses.
For various reasons.
Le fait qu'il y en avait beaucoup qui étaient restés, de juifs qui étaient restés à Jérusalem après la Pentecôte pour apprendre la parole, apprendre à connaître Dieu.
There were many Jewish people who remained in Jerusalem after the Pentecost to learn the word, to learn more about God.
À cause de persécutions.
And because of persecution.
Il se trouvait qu'ils étaient dans la pauvreté, l'Église était dans la pauvreté matérielle.
They found themselves, the church found itself in material poverty.
Ils n'avaient rien demandé à Paul. Mais Paul, conscient du besoin, lui avait demandé aux églises grecques de faire preuve de générosité, de faire une collecte à leur égard. Et donc nous avons commencé à parler de cette collecte à partir du début du chapitre 8. Et nous allons terminer le chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 16. Je lis dans la version à la colombe. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Car il a accueilli notre exhortation, plus empressé que jamais. C'est de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dans la louange à cause de ce qu'il a fait pour l'Évangile et répandu dans toutes les églises. De plus, il a été désigné par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de grâce dont nous avons la charge pour la gloire du Seigneur lui-même et un témoignage de nos bonnes dispositions. Nous voulons éviter qu'on nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux des hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé l'empressement en beaucoup d'occasions, et qui en montre encore plus encore cette fois, à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous, et quant à nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez donc à la face des églises la preuve de votre amour et des raisons que nous avions de nous glorifier à votre sujet devant eux. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement que vous, pour vous.
Thanks be to God who puts the same earnestness on your behalf in the heart of Titus.
Tite, c'était donc ce jeune pasteur que Paul avait formé.
Titus was this young pastor that Paul had trained.
Et on voit que pour s'occuper de cette collecte, Paul va s'entourer d'un groupe d'hommes. Il y a Tite donc au verset 16.
There is Titus in verse 16.
Au verset 18, il y a un autre frère dont le nom n'est pas cité.
And in verse 18, there's another brother. His name is not given.
Et au verset 22, on pense que c'est encore un autre frère dont le nom n'est pas cité, qui est aussi envoyé.
And in verse 22, we see mention of another brother who was sent, whose name is not mentioned.
Et ça montre qu'en fait, Paul veut prendre des précautions au sujet de la collecte. Il veut que son ministère soit au-dessus de tout soupçon. Et qu'on ne puisse lui faire aucun reproche sur une mauvaise façon de gérer les fonds, une façon encore pire, ce serait pire, une façon malhonnête de gérer ses fonds. Ça, c'est un principe très important.
And this is a very important principle.
de ne pas laisser une seule personne s'occuper des finances. En particulier dans les ministères chrétiens, dans les églises. Dans notre cas, à Calvary Chapel Nice, nous voulons être complètement transparents vis-à-vis des finances. Nos ressources sont des dons qui viennent de vous. Et aussi des dons qui viennent d'églises sœurs ou mères. Et nous avons une structure légale. Nous sommes constitués en association cultuelle. Avec un conseil d'administration, un conseil d'église.
With a board, a church board,
et un bureau.
And a set of officers.
A board. Composé d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire pour l'instant. Et donc, il n'y a pas une seule personne qui s'occupe de l'argent. C'est Thierry, le trésorier, qui reçoit les dons que vous êtes invité à déposer dans la boîte au fond de la salle. Et qui, en général, lorsqu'il compte, se fait faire une vérification par une autre personne de l'Assemblée. Il y a un carnet de dons qui est signé, qui est maintenu à jour. Le trésorier tient une comptabilité sur ordinateur. Il présente les bilans obtenus à un vérificateur aux comptes, une association Acte 6. Ces registres, ces bilans vous sont communiqués annuellement lors de l'Assemblée générale. Mais si vous êtes membre de l'Église et que vous voulez avoir des détails, vous pouvez toujours venir auprès du trésorier pour lui demander ce qui se passe au niveau financier. Nous souhaitons la plus grande transparence. Parce que cet argent ne nous appartient pas. Il appartient au Seigneur qui nous le confie pour qu'on fasse fructifier son œuvre. Il est intéressant que la plupart des sectes se constituent en loi de 1901. Il suffit de deux personnes qui s'entendent pour former une association. Par contre, pour faire une association cultuelle, il faut déjà 20 personnes. La commission d'enquête sur les sectes en France pour eux, un des premiers critères, c'est lorsque les comptes ne sont pas bien clairs. Nous voulons donc qu'il y ait vraiment une transparence.
So we desire a real transparency.
Je veux aussi que vous sachiez que je ne sais pas qui donne quoi.
And Pierre also wants you to know that he doesn't have any idea who gives what.
Si je reçois un coup de fil à 3h du matin.
If he gets a call at 3 o'clock in the morning.
Ah, c'est un tel, oh, il a donné que 50 francs dans les derniers 3 mois. Ah, c'est un tel qui donne la moitié des revenus, je vais le voir.
Oh, right.
Comme Paul, nous voulons que notre ministère soit au-dessus de tout soupçon. Il faut savoir que ça peut des fois être un défi. On peut vouloir être honnête et ça peut être difficile. Par exemple, on a voulu changer la serrure du local. Si c'est un local à fonction de logement, la TVA est de
5,5%.
Mais si c'est un local pour une association, à ce moment-là, la taxe, la TVA est de
19,6%.
Et on m'avait donné le prix de la nouvelle serrure en fonction de... Comme j'étais un particulier, on ne voit pas que je suis... Il n'y a pas marqué président d'une association cultuelle. Et donc, il m'avait donné un prix avec une taxe TVA de
5,5%.
Seulement lorsque j'ai dit qu'il fasse la facture au nom de l'association, qu'il m'a dit, ah mais attention, dans ce cas-là, c'est plus 5, c'est 19%. J'aurais pu acheter le cadenas en mon nom et me faire rembourser par le trésorier. Et nous aurions été en faute légalement. Donc nous avons non seulement le besoin du désir d'être honnête, mais de l'aide du Seigneur pour rester honnête. Paul met donc cette équipe d'hommes.
Puts these people together. So Paul puts this group of men together.
Pour qu'ils s'occupent de l'argent qui va être recueilli.
So that they concern themselves with the money they're going to gather.
Pour pas qu'on dise en fait, oui, il demande de l'argent, c'est pour son bénéfice propre.
So that no one can say Paul is asking for this money for his own benefit.
Ce qui est intéressant, c'est que ces personnes sont désignées par les églises. Verset 19. Et le mot, ça veut dire qu'ils ont été, on a voté pour eux à main levée. Ce sont des hommes de bonne réputation, qui sont respectés dans les églises. Et de la même façon, lorsque nous procédons à des élections pour avoir des membres du conseil d'administration, notre prière, c'est que ce soit des personnes dignes de foi qui soient votées à ces postes. Et donc, il est important de ne pas créer des situations où la tentation soit forte. Souvent, on dit, oui, mais moi, je connais mon cœur, je suis honnête. Il faut savoir que les non-croyants nous regardent, nous observent. Et il ne faut même pas leur donner l'occasion de nous soupçonner. Vous connaissez tous, je pense, le grand évangéliste Billy Graham. Lors de ses débuts, il avait été photographié dans la presse avec des sacs dans lesquels la collecte avait été recueillie. Et le jour même, lorsqu'il a vu cette photo dans le journal, il a décidé de créer une association avec un conseil d'administration qui s'occuperait des finances. Association qui existe jusqu'à ce jour, l'association de l'évangélistique Billy Graham.
Association exists to this day, the Billy Graham Evangelistic Association.
En même temps, c'est une invitation pour vous à ne pas donner si vous n'avez pas confiance dans l'intégrité des gens qui vous demandent des fonds.
And it's also an invitation to you not to be giving if you don't have a complete trust in the integrity of the people or the organization you're giving to.
1 Thessaloniciens 5:22 nous dit de nous abstenir du mal sous toutes ses formes, ou même une autre traduction, c'est de nous abstenir de toute apparence de mal.
In 1 Thessaloniciens 5:22, it tells us to abstain from every form of evil.
Or une autre traduction, c'est all appearances of evil.
Or another translation is all appearances of evil.
Et l'idée, c'est que même si nous ne faisons pas du mal, nous ne voulons pas donner aux autres la possibilité de penser que nous faisons quelque chose de mal.
We're not even to give to others the possibility of assuming we might be doing something wrong.
Il est possible, par exemple, qu'un garçon chrétien et une fille chrétienne des étudiants décident d'habiter ensemble pour réduire les coûts même s'ils font ça en tout bien, tout honneur. Ils ne doivent pas le faire.
They shouldn't be doing that.
Parce qu'ils donnent une occasion de suspecter leur relation.
Because they're giving an occasion for people to be suspicious about their relationship.
Encore une fois, il ne s'agit pas d'être légaliste.
And this isn't a question of being legalistic.
Il s'agit de ne pas prêter le flanc à la critique.
It's just a question of giving material to our critics to be able to criticize us.
Et encore une fois, comme Paul disait, ça me gêne pas moi de prendre de la viande qui a été sacrifiée aux idoles, mais je le fais pas pour causer la chute de ceux qui sont moins établis dans la foi.
It's the same kind of situation as when Paul said that it doesn't bother him to eat meat that had been offered to idols, but he chose not to do so because it could be a stumbling block to others.
Verset 24, donnez donc à la face des églises la preuve de votre amour et des raisons que nous avions de nous glorifier à votre sujet devant eux.
Verse 24 says that they are to openly before the churches show them the proof of your love and of your reason for or their reasons for boasting about them.
Paul a expliqué que donner c'est une grâce.
Paul explains that to give is a grace.
Avoir la capacité et la volonté de donner aux autres, c'est un don de Dieu. Ça ne doit jamais être une obligation ni un fardeau pour ceux qui donnent. Dans le reste du passage, le chapitre 9, il va s'attacher à montrer les bénédictions qui s'attachent à la générosité. Verset 1, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints.
Verse 1 of chapter 9, he says it is superfluous for me to write to you about this ministry.
Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie à votre sujet auprès des Macédoniens. L'Achaïe est prête depuis l'année dernière et votre zèle a stimulé la plupart.
Verse 2, for I know your readiness of which I boast about you to the Macedonians, namely that Achaia has been prepared since last year and your zeal has stirred up most of them.
Alors si vous étiez là la semaine dernière,
and if you were here last week,
vous rappellerez, on a dit l'Achaïe c'est la péninsule au sud de la Grèce.
You remember that we noted that Achaia is the southern peninsula of Greece.
Là où se trouve la ville d'Athènes, la ville de Corinthe qui était la capitale. La Macédoine, c'était la partie nord de la Grèce. Avec les villes de Philippe, de Bérée, de Thessalonique, où Paul avait implanté des églises. Et au début du chapitre 8, Paul a dit en fait aux Corinthiens que les chrétiens de Macédoine étaient vraiment généreux. Pour inciter les Corinthiens à eux aussi être généreux. Et puis là, il est en train de leur dire qu'en fait, il s'est vanté d'eux, les Corinthiens, auprès des Macédoniens. Pour les stimuler à donner davantage. Alors là, on pourrait se dire, en fait, Paul manipule. Il dit aux uns, regardez ce que les autres ont donné. Et puis il va dire aux autres, regardez ce que les autres ont donné. Ça, ce serait une lecture un peu superficielle. En fait, ce qu'il dit, c'est que les Corinthiens ont eu plein d'enthousiasme lorsqu'on leur a parlé de l'idée. Mais par la suite, ils se sont ralentis dans leurs ailes. Ils n'ont pas donné suite vraiment. Par contre, les Macédoniens, au début, ils traînaient un peu la patte. Mais lorsqu'ils ont entendu parler de l'enthousiasme des Corinthiens, ça les a mis en marche. Et eux, ils ont vraiment accompli cette collecte. Et donc, Paul se sert des uns et des autres pour les encourager à avoir non seulement l'enthousiasme, mais aussi à continuer jusqu'à l'action. C'est vrai que la Bible nous dit que nous devons veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et nous pouvons, par notre vie chrétienne, encourager les autres à vivre aussi plus fort pour le Seigneur. Et la question que je dois me poser, c'est est-ce que dans ma vie, mon comportement encourage les autres à suivre davantage le Seigneur ? Est-ce que ma générosité personnelle, que ce soit dans les finances, dans le temps, dans le service, dans l'aide pratique, ça encourage les autres à eux aussi faire de même ? Parmi vous, il y a des gens qui m'inspirent. Et j'espère qu'ils vous inspirent aussi. Une autre application, et nous l'avons déjà fait remarquer, c'est que ce n'est pas tout d'avoir le désir de faire quelque chose. C'est de les mettre en pratique. Encore une fois, on l'a prié tout à l'heure, ce n'est pas le tout d'entendre la parole, il faut aussi la mettre en pratique. La clé du succès, c'est de garder le cap.
Keep the course.
De continuer de persévérer. Il y a beaucoup de gens qui ont de grandes idées, des idées généreuses, mais on ne voit rien venir. Ils sont peut-être trompés parce qu'ayant eu l'idée, ils se disent « Ah, j'ai fait du bien ». En fait, non, ils ont simplement eu l'idée. Ça m'arrive souvent. Cette semaine, j'ai l'impression d'avoir appelé Julien et Benny. Parce que j'y ai pensé plusieurs fois. Mais je ne l'ai pas fait. Et pour Benny et pour Julien, c'est comme si je n'avais pas pensé du tout. On a oublié de prier pour Benny, il est rentré, il a une fracture du péroné. Il a fait ça en sortant de la baignoire, le pauvre. Donc si vous pouvez l'appeler, l'encourager en réalité, ça lui fera plaisir. Je le sais parce que lui m'a appelé. Et voilà quelqu'un, le Seigneur me mettait à cœur, il avait une jambe cassée. Mais j'ai rien fait. Et Jésus a dit aussi, c'est pas le tout d'avoir des idées. Si vous persévérez pas dans votre mise en pratique de cette idée. Vous savez quand est-ce qu'il a dit ça? Il l'a dit quand il disait, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui font des rêves, mais il y a peu de gens qui passent à la pratique. Et donc, Paul va dire à ses Corinthiens, vous avez eu une idée géniale, vous avez eu plein d'enthousiasme, et maintenant je vais vous aider à assurer. Et donc il leur dit, j'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Il ne faudrait pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. Autrement dit, ne me laissez pas tomber. J'ai dit que vous étiez des gens formidables qui allaient donner beaucoup parce que vous aviez plein d'enthousiasme. Ne me laissez pas tomber maintenant, ce serait une honte pour tout le monde. Encore une fois, on peut penser qu'il essaye de mettre un peu la pression. Mais lorsqu'on lit le verset suivant, on voit que ce n'est pas son cœur. Il dit, j'ai donc estimé, verset 5, nécessaire d'exhorter les frères à me devancer chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête comme une libéralité, pardon, et non comme un acte d'avarice. Paul dit qu'il ne veut pas mettre la pression sur eux en venant en personne et en demandant aux gens de s'avancer pour donner dans la boîte. Et là aussi, je vous invite à être très méfiant des ministères chrétiens qui mettent la pression. Certains disent, si vous ne donnez pas une somme rapidement, on va être obligé de fermer notre ministère, c'est le Seigneur qui va être triste. Et on a l'impression que c'est le Seigneur, Dieu, qui va faire banqueroute.
And it's almost as if it's like the Lord's going to go bankrupt.
Non, Dieu n'a pas besoin de notre argent.
No, God doesn't need our money.
Et j'aime beaucoup la position de Chuck Smith,
and Pierre really likes the position of Chuck Smith,
qui dit que où Dieu envoie, il pourvoit.
That where God sends people, he will provide for them.
Where God guides, he provides. Pour dire que s'il n'y a pas la provision, peut-être qu'il n'y a pas l'appel, il n'y a pas l'envoi.
In other words, where we don't see provision, maybe there isn't a call, maybe they're not being sent.
Et ces ministères qui vous mettent le thermomètre en, avec le qui vous pressurent, qui vous mettent la pression pour donner.
And these ministries that set up a kind of thermometer of pressure on you to give.
Regardez à deux fois. Il est bon de faire connaître le besoin.
It's good at times to let a need be known.
Mais Dieu n'extorque que par l'argent.
But God doesn't pressure money out of people.
L'argent lui appartient déjà.
The money belongs to him already.
Et ce qui est le plus terrible, c'est que lorsqu'on manipule les gens pour qu'ils donnent, on leur enlève la bénédiction de donner généreusement. Vous avez devant vous un chantier. À vous devant le Seigneur de savoir s'il veut que vous donniez généreusement. Il n'a pas le temps. Sinon, peut-être non. Et c'est ce que Paul va expliquer. Il vient de dire que donner, ça bénit ceux qui reçoivent.
And that's what Paul is going to explain.
Mais il va nous montrer maintenant que donner, ça bénit celui qui donne.
And he's going to show that to give is blessing the one who gives.
Verset 6. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a des lois dans l'univers.
Pardon?
Il y a des lois.
There are laws in this universe.
On ne les comprend pas toujours complètement.
And we don't always completely understand them.
Mais on apprend rapidement à les utiliser à notre avantage.
But we quickly learn to use them to our advantage.
On sait, on a... Tout jeune, on découvre ce qu'est la pesanteur.
At a very young age, we learn about weight.
Que notre corps est attiré vers la terre.
And that our bodies are drawn towards the earth.
Pourquoi exactement ?
Why exactly?
Peut-être on le comprend pas.
Maybe we don't understand.
Je suis pas sûr de le comprendre.
I'm not sure.
Mais je sais que la gravité existe.
But I know gravity exists.
Et donc je ne vais pas me promener au bord du toit en disant je vais faire un pas de plus et me poser délicatement.
So I'm not going to walk around on the roof and then decide to take one extra step out into
the emptiness.
Into emptiness.
Parce que j'ai appris à me méfier de la pesanteur et à la respecter. La pesanteur, c'est un principe que j'essaye de respecter.
And this is a principle I try to respect.
L'électricité dans les fils.
Electricity in wires.
Qu'est-ce qui se passe dans ces petits fils?
What's happening in those little wires?
Est-ce que c'est des électrons qui bougent?
Are they electrons that are moving?
Est-ce que c'est des électrons qui se déplacent juste un à la fois?
Is it just one electron moving at a time?
peu importe, je sais que si je mets les deux doigts dans la prise, je vais avoir une expérience douloureuse. Donc j'apprends à vivre avec ce principe. Il y a des principes de nature physique. Il y a des principes de nature morale et des principes de nature spirituelle. Et là, Paul nous donne un grand principe. Celui qui donne beaucoup reçoit beaucoup. Ça n'a pas l'air logique du tout. Si je donne, je vais avoir moins. Non, il y a un principe, je ne comprends pas. Je peux le vérifier pratiquement. Si je donne beaucoup, je vais recevoir beaucoup. Est-ce que vous le savez, ça? Ou est-ce que vous vous méfiez quand même? Vous avez vos doutes là-dessus. Paul utilise une illustration pour nous permettre de mieux comprendre ce principe. Il va vers l'agriculture et il prend l'exemple du semeur qui sème des graines. Et là, ça me permet de comprendre un peu mieux. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Ça, je le comprends. C'est vrai que si un agriculteur est là à dire je fais pousser du maïs, mais tous mes graines cette année, je vais les faire en pop-corn. Je ne vais pas jeter ce pop-corn potentiel dans la terre pour qu'il se dissolve et qu'il pourrisse et que je ne le vois plus pendant des mois. Non, le paysan un peu malin, c'est que plus il va semer et plus il va récolter. C'est un principe d'agriculture qui illustre une réalité spirituelle. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup, récoltera beaucoup. Alors peut-être que vous dites maintenant, je vais donner pour recevoir plus. Il y avait un industriel chrétien qui donnait 90% de ses bénéfices à l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur n'arrêtait pas de bénir financièrement. Mais il disait, attention, si vous donnez parce que ça paye, ça ne va plus payer. Encore une fois, le Seigneur voit le motif, la motivation, pardon, de votre cœur. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Ça, c'est Philippiens 4, 19. C'est un verset qu'on aime bien revendiquer comme une promesse inaliénable. Dans n'importe quelle situation, doit pourvoir à tous mes besoins avec générosité selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. En fait, lorsqu'on y regarde de plus près, n'est pas un chèque en blanc.
It's not a blank check.
Il faut toujours prendre un texte dans son contexte, sinon c'est que, ce n'est qu'un prétexte. Anything. Prétexte. La promesse.
Prétexte.
Dans ce cadre et dans un contexte bien précis.
And the promise given in this situation is in a very precise context.
Paul, en fait, écrivait aux Philippiens pour les remercier de la collecte qu'ils lui ont envoyée. Et donc cette promesse, elle répond au principe dont on vient de parler, elle s'applique aux chrétiens généreux. Les Philippiens en étaient l'exemple. Mais sachez bien que si vous êtes radin avec votre argent, ça ne s'applique pas. Il y a ceux qui, les tenants de la doctrine de la prospérité, aiment prendre ces versets en dehors de leur contexte et de dire, clamez-les, réclamez, revendiquez, Dieu vous doit la santé, la richesse. Si vous n'êtes pas riche, si vous êtes malade, c'est à cause du péché dans votre vie. Et cette doctrine, c'est un mensonge. C'est un mensonge populaire. On aime tous s'entendre dire qu'on va recevoir un chèque dans le courrier. Mais encore une fois, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème généreusement recevra généreusement. La promesse d'une récolte abondante, c'est pas seulement matériellement, bien sûr. Jésus a dit que celui qui quittait à cause de son nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre, recevrait beaucoup plus. Dans Marc, il est même plus précis, il dit qu'on reçoit au centuple ce qu'on a laissé comme ça. Et on sait bien qu'il ne parle pas matériellement uniquement. Parce que ça voulait dire que si on quitte sa femme pour servir le Seigneur, on en reçoit une centaine. Non, il y a un problème là. Non, il est important de considérer, de réaliser qu'on ne peut pas donner davantage à Dieu qu'il ne nous donne en retour. Au Moyen Âge, les savants cherchaient la pierre philosophale. Qui avait soi-disant, ou qui ils espéraient, aurait le pouvoir de transformer l'argent en or ou les métaux en or. Notre générosité, c'est la pierre philosophale. On peut prendre nos trésors terrestres, l'argent, le chrome, l'acier de nos voitures, et les transformer en or, en trésors célestes. Jésus, dans le sermon dans la montagne, Matthieu 6, disait « Ne vous amassez pas de trésors sur terre où le ver et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu nous donne ce principe. Il est tellement important qu'il y ajoute un défi. C'est la seule matière, le seul sujet sur lequel il nous dit de le défier, le mettre au défi. Malachie 3:10, il invite les Juifs à donner la dîme. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne verse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Peut-être vous n'avez jamais essayé de donner et si généreusement que le Seigneur vous donne en retour. Peut-être vous vous dites, c'est bien beau, mais j'ai à peine de quoi boucler ma fin de mois, je ne vais pas commencer à donner de l'argent pour l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur vous met au défi de le défier. Mais en même temps, il ne veut pas vous forcer. Verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si vous voulez donner de l'argent à Dieu en pleurant, ou parce que le pasteur vous a mis la pression, Dieu dit, il ne veut pas de votre argent. Il veut votre cœur. Et votre cœur va vous dire de donner. Vous allez dire, je vais, ah tiens, c'est vrai, ça fait un moment, je vais peut-être donner tant d'argent. Une fois que vous avez pris cette décision dans la prière, faites-le. Dieu aime celui qui donne avec joie. Le mot, c'est en fait avec hilarité. Le gars qui n'en peut plus de rigoler. Ha ha, je suis formidable, je donne. C'est ça qui plaît au Seigneur. Je veux entendre des rires là-bas. Est-ce que vous avez déjà donné avec joie? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais encore faut-il faire ce geste de donner. Vous connaissez, je crois que je vous l'ai déjà raconté, l'histoire du chrétien qui, par erreur, met un billet de 20 euros dans la corbeille. Alors qu'il voulait mettre un billet de 10 euros. Ces nouveaux billets, on s'y perd un peu. Et il se plaint à sa femme, j'ai donné 20 au lieu des 10 que je voulais donner.
And he complains to his wife, like,
Et sa femme, ironiquement, le console en lui disant, mais t'en fais pas, le Seigneur ne mettra que 10 euros à ton compte. C'est votre cœur que le Seigneur veut. Les dons forcés, on a dit que ça s'appelait des impôts. La TVA à 5,5 ou 19,6. Si j'étais pas forcé de donner 19,6, je préférais ne donner que 5,5 ou rien du tout. Et notre carnet de chèques, ça va être le révélateur de notre cœur. Je peux dire que j'aime le Seigneur. Les choses spirituelles sont tellement plus importantes que les choses matérielles. Montrez-moi votre chéquier. Thierry regarde souvent le chéquier de l'église pour relever les chèques. Si vous voyez planche à voile ou snowboard, il commencerait à me poser des questions. Et le Seigneur veut vous poser des questions sur la façon dont vous dépensez votre argent. Des questions à me poser sur la façon dont je dépense mon argent. Parce que Dieu, encore une fois, c'est l'exemple du donneur parfait. Je crois que quand il a envoyé son fils à la croix, il l'a fait avec joie. Avec beaucoup de douleur, mais peut-être avec une hilarité à l'intérieur, en disant, quel plan merveilleux. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 8 est aussi un verset très important pour ceux qui sont un peu frileux dans ce domaine. Parce qu'il dit que Dieu est capable de vous aider. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours à tous écarts de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Quand on pense à Dieu, à ses bénédictions, on a souvent en tête ce qu'on pourrait appeler une économie de pénurie.
Lack.
Dieu a un certain nombre de ressources, s'il un nombre fini de ressources. Et si ces ressources sont données à quelqu'un ou à une œuvre, alors à ce moment-là, il y en a d'autres qui vont manquer. Parce que nous avons des ressources limitées. Si je fais un très beau cadeau à Nancy, je pourrais peut-être pas faire un beau cadeau à Tonio ou à Sébastien. Désolé, maman a eu le diamant.
Sorry, mom got the diamond.
Toi, tu as les cartes postales.
You get postcards.
Dieu, lui, il procède d'une économie de ressources infinies.
God possesses an infinite number of resources.
Et c'est ce qui explique ce verset 8. Il est capable de vous combler, de vous remplir de toutes sortes de grâces, de cadeaux, de bienfaits, de bénédictions.
He is able to completely overwhelm you with all sorts of graces.
afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins,
so that always having all sufficiency in everything, all your needs,
vous allez encore avoir en abondance pour toute œuvre bonne.
You will even have more, an abundance for every good deed.
Dieu est tellement riche,
God is so rich,
qu'il peut vous donner de quoi remplir tous vos besoins. Et en plus de vous donner de l'abondance pour donner autour de vous. Celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème beaucoup moissonnera en abondance. Il donne pour que nous donnions. Dieu veut que nous donnions, veut que nous soyons pleins pour pouvoir donner. Jean 4, 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Whoever drinks of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall become in him a well of water springing up to eternal life.
L'idée c'est que nous débordions, Dieu veut que nous débordions de bénédictions. Et vous avez déjà sans doute entendu parler de la différence entre le lac de Nazareth et la mer morte. Tous ces deux plans d'eau sont alimentés par la même rivière, le Jourdain. Et d'après les films que j'ai vus, les récits que j'ai entendus, le lac de Nazareth regorge de vie, de poissons. C'est un lac vivant. Par contre, la mer morte, elle est morte. Et la différence, c'est que pour chaque goutte d'eau qui rentre dans le lac de Nazareth, il y a la même goutte d'eau qui ressort dans le Jourdain, en aval. Par contre, la mer morte, elle ne laisse rien sortir. Et ça, c'est le même principe. Si on ne donne rien, on ne va pas vivre, on ne va pas recevoir. Notez bien, a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Le mot satisfaire, c'est aussi le mot qui est utilisé dans 1 Timothée 6:6 pour dire que celui qui a le contentement et la sainteté a de grandes richesses.
The word for sufficiency in this verse is the same word used in 1 Timothy 6:6 that is talking about a great gain.
If you have contentment.
Oh, if you have contentment.
Le contentement, être satisfait de son sort et s'en remettre à Dieu, c'est la clé aussi, bien sûr, pour pouvoir donner.
Contentment, being satisfied with where you are, is the key.
Puis Paul cite un psaume et un passage d'Ésaïe, selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Ça, c'est le psaume 112. Puis il cite Ésaïe 55, « Comme la pluie et la neige descendent des eaux, des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Le verset de Ésaïe continue en disant que c'est la même chose avec la parole de Dieu. Verset 10, Ésaïe 55. C'est Dieu qui fournit toutes nos ressources.
It's God who provides all our resources.
C'est important de réaliser que ce n'est pas parce que je suis beau,
it's important to recognize
ne souriez pas,
it's not because I'm good looking,
don't smile, que je suis intelligent,
or I'm intelligent,
travailleur,
a worker,
persévérant,
persevering,
que j'ai telle ou telle chose.
Or because I have something.
Non, tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques 1, 17. Tout vient de Dieu. Et verset 11, vous serez de la sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de liberté, qui par notre moyen aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Et là, il aborde le troisième et dernier point de l'importance des dons, de la bénédiction qui s'attache aux dons, c'est que lorsque l'on donne, on glorifie Dieu. Car verset 12, le service de cette offrande non seulement pourvoit aux besoins des saints, ça c'est le premier point, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ça veut dire que ça fait monter des remerciements vers Dieu. Vu la valeur de ce service, verset 13, il glorifie Dieu au sujet de votre obéissance à confesser l'évangile du Christ et de la libéralité de votre communion envers eux et envers tous. Il prie pour vous avec tendresse à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Et donc cette générosité dans les dons, elle pourvoit d'abord aux besoins de ceux qui nous entourent. Elle fait monter des remerciements vers Dieu. Quelques amis nous ont envoyé des dons pour l'aménagement du local.
Remodel.
Et notre réaction, c'est de dire, oh Dieu, tu es formidable, tu les inspires et tu pourvois à nos besoins par leur générosité. Si on connaît Dieu, on sait que c'est lui qui inspire et c'est lui qu'on remercie. Et elle conduit les gens à glorifier Dieu au sujet de l'obéissance à confesser l'évangile du Christ.